Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du lundi 29 septembre 2025. À seulement 48 heures de la clôture mensuelle et trimestrielle, on a un Bitcoin qui rebondit suite à ce week-end, une petite incartade sous les 110 000 dollars et on a un Ether qui était passé autour de 3850. Donc on le voit en hebdo, on est toujours dans le rouge, tandis que sur la journalière, en effet, on est en train de reprendre environ 3 à 4, parfois un peu plus du côté des altes, notamment Solana à plus 4%. Donc Ether finalement est repassé à 4100, c'est plutôt une bonne nouvelle, on va le voir dans un instant. On a plus 5% pour Hyperliquid, plus 4% pour Avalanche et voilà, le top 50 suit Polkadot plus 4%, World Financial autour de plus 6%. On a également plus 9% pour Story, plus 13% pour Pumpfund. Bon, des choses qui forcément pour l'investisseur long terme ne seront pas forcément des plus intéressantes. 5% pour Sky, anciennement, donc si je dis pas de bêtises, Maker pour la DeFi. Et on clôture désormais le top, pas 50, mais 60. Ils ont légèrement allongé la watchlist avec du Aza, Immutable, etc., qui est à 1,5 milliard. Et sachant que le top 50 est à 1,8, donc on était en recul malgré tout par rapport aux dernières semaines où on était autour de 2 milliards, voire un petit peu plus. Au niveau du Scalpex, on a les open interest qui sont en désengagement ce lundi, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Pourquoi ? Puisque les leviers se sont fait punir un peu autour de cette zone entre les 113, 114 et la borne basse qu'on est venu chercher juste sous les 109 000 dollars. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle qu'on ait fait un peu une déviation quelque part ici. Après, il va nous falloir reprendre très rapidement sur ce début de semaine les 112, 113 pour ne pas commencer à moisir et se faire repousser donc sous ce fameux support des 110 000. Le crypto Fear and Greed est sur la neutralité la plus pure. Donc j'ai essayé de vous donner un tout petit peu aujourd'hui de granularité sur ce qui pourrait se passer justement sur ce fameux mois d'octobre. Un mois d'octobre qui pour les marchés est censé être un des meilleurs mois de l'année, si ce n'est le meilleur, avec octobre-novembre. Donc là aussi, ben, on a eu un septembre qui n'a pas été si horrible que ça. En attendant, on a le gold de 3800 dollars l'once. Il continue son bull run pour sa part. On aimerait voir la même courbe et du côté de Bitcoin et du côté surtout des altcoins. Les 4000 dollars dans un premier temps hein, pour l'once. Et on verra comment ça va se passer autour de cette zone qui sera une zone clé psychologique finalement plus qu'autre chose. Donc là par rapport au marché crypto d'un point de vue du sentiment, je me dis que finalement peut-être on n'est pas si mal justement au vu de la saisonnalité. On a un sentiment général qui est ultra pessimiste et moi le premier hein, depuis quelques semaines je vous dis que voilà je peine quand même à me projeter sur quelque chose qui serait littéralement explosif. Comme on a pu le voir par le passé en 2020-2021 et en fin 2017 tout début 2018, finalement pour 2017-2018 le gros de la season, il a été assez fugace ou du moins l'explosion finale, alors que 2020-2021, ça s'est étalé en deux fois et notamment au cours de 2021 où on avait eu un premier top en avril au moment de l'introduction en bourse de Coinbase et ensuite on a eu les carabistouilles de FTX autour de l'automne qui nous a permis malgré tout de sortir vraiment à bon compte sur ce cycle. Donc là aujourd'hui, il y a quelque chose d'un peu plus important aussi à prendre en considération, au-delà du fait que la volatilité sur Bitcoin est au plus bas, qu'on vient de retester des supports importants pour Bitcoin, pour Ether, que les leviers ont été liquidés, c'est le fait qu'on a besoin d'avoir du rendement et on a besoin d'avoir une liquidité qui tourne aujourd'hui dans l'économie. Pourquoi ? Eh bien, la réponse est toute simple. Ce week-end, je me suis ingéré pas mal de vidéos à la fois de TradFi, du côté un peu plus institutionnel. J'ai essayé de lire des newsletters et tout ça auxquels on n'a pas forcément accès justement sans payer. Et c'est ce que, au final aussi, aujourd'hui, j'ai plaisir à vous donner comme ça gratuitement sur la chaîne, à vous faire un peu un scope généralisé de tout ce qui se passe même sur la vue institutionnelle et de vous en faire une synthèse. Alors la plupart du temps c'est un peu déconstruit quand je parle parce que comme vous le savez je ne scripte pas les émissions, mais voilà, c'est malgré tout un retour qui aujourd'hui me semble tout à fait honnête et honorable de l'état général des marchés. Et donc quand on prend les choses en considération, c'est vrai qu'aujourd'hui si on prend en compte le fait que on a malgré tout une inflation et notamment du côté des États-Unis qui est autour de 3 points et qui pour 2026 a une projection à 3,2, 3,3 pour les plus optimistes d'entre eux au niveau des fonds, des grandes banques, etc. américaines, voire 3,5 pour les plus pessimistes d'entre eux, ce qui voudrait dire à partir de 3,5 qu'on commence petit à petit à rentrer dans une métrique qui pourrait faire craindre une récession. Donc je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, mais en tout cas, on aura une inflation qui va rester collante au moins à 3 points, voire 3 points plus. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, sur les marchés, pourquoi il y a autant d'argent investi et pourquoi on a besoin d'aller sur les actions, pourquoi on a besoin d'avoir du rendement? Eh bien, tout simplement parce qu'il va falloir venir chercher et battre ces fameux 3 points d'inflation. Sinon, chaque année qui passe, bien entendu, on a l'impression d'avoir le même argent sur son compte, mais malheureusement, ça se fait ronger justement de ce petit fantôme qui vient grignoter et on le voit quand on fait nos courses. Et je suppose que sur le consommateur américain aujourd'hui, c'est d'ores et déjà la même musique. Et par la suite, avec les tarifs de Trump, là jusqu'ici, on a eu finalement les entreprises qui ont pris en charge directement les augmentations de taux, de tarifs et de tarifs douaniers. Et là, la problématique, c'est que 2026 à 2027, ça ne va pas pouvoir durer indéfiniment. Il y aura tôt ou tard, si ce n'est déjà le cas, une répercussion des tarifs de douane sur le consommateur américain. Et c'est là où ça va commencer à coincer, puisqu'on est déjà dans une économie qui, certes, est résiliente pour l'économie financière, pour la part finance, mais pour l'économie du consommateur, le yo-yo peut se faire et se défaire très, très vite, et notamment dans un tissu social qui est de plus en plus tendu, et notamment aux États-Unis. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand bien même, en effet, on a des sociétés qui sont super capitalisées, des Nvidia, les 7 magnifiques et tout ce qui va bien, on a un besoin latent d'être investi, tout simplement, d'aller chercher du rendement. Alors, le rendement, vous allez me dire, on peut l'avoir aussi du côté obligataire, avec du 3 à 3,5 pour les plus courts, à jusqu'à quasi 5 points pour les plus longs. C'est tout à fait vrai, mais c'est un système qui va plutôt plaire, ça, l'obligataire, au old school, ou aux vieux, ou aux boomers, qui ont besoin de sécuriser une retraite, plutôt que les jeunes, qui aujourd'hui sont des jeunes actifs, dynamiques, dans l'action, qui ont envie aussi d'avoir un truc qui bouge. Et donc, toute cette frange de nouveaux arrivants de 2020 à 2025, bien entendu que dès qu'ils ont 4 sous, ils essaient de les investir, pas forcément toujours de la bonne manière, mais c'est ce qui donne aujourd'hui cette extrême dynamique, bien entendu, à l'ensemble des marchés. Alors, ça ne veut pas pour ainsi dire qu'en 2026, on ne va pas se prendre un shoot. Je suis quasi persuadé que ça finira par arriver peut-être moins 5, moins 10 si ça se passe bien dans le meilleur des cas pour le S&P 500 et nous pour les cryptos, comme je vous disais, le drawdown médian que je verrai du côté de Bitcoin si on se tape un bear market, ça serait autour de moins 50% comparativement au quasi moins 80 qu'on a fait au cycle précédent, moins 85 au cycle d'encore avant et moins 89 encore au cycle précédent, donc il y a 3 cycles. Donc ça vous donne quand même une proportion que malgré tout, quand bien même il y aurait une baisse de 50 sur Bitcoin, c'est une baisse qui semblerait tout à fait optimiste par rapport à ce qu'on s'est déjà traversé par le passé. Et c'est pour ça que je prends en considération justement les ETF, les flux, tout ce qui s'est mis en place à aujourd'hui et le fait que sous l'administration de Trump, on devrait malgré tout continuer d'avoir un terrain qui est relativement fertile en effet pour les crypto-actifs au sens large du terme. On avait Franck qui nous mettait en avant, comme d'hab, la contraction des Bollinger Band. Donc on est au plus bas depuis les 7 dernières itérations, il est remonté à 2023. À chaque fois qu'on a eu un point bas comme ça, voire une petite déviation, eh bien c'était le point bas local, c'était pas le bottom absolu, mais ça nous permettrait en effet d'aller truster, pourquoi pas, 130, 140, 150 000 dollars sur la fin d'année. Et cette semaine, on devrait reprendre aussi les analyses on-chain, donc on va vous donner un peu de profondeur vis-à-vis de tout ça. C'est exactement pareil pour Ethereum en journalier, on est venu très très bas en RSI, survendu. Et la dernière fois que c'est arrivé, c'était juin 2025 et on était autour de 2150 de nouveau dans ces eaux-là. Ça, c'est une très très grosse zone pour Ether, 2150, qui pour moi plus tard fera office, je pense. Peut-être, si jamais on va pas trop loin justement dans un futur bear market, de gros supports et surtout de zones importantes quant à un DCA. Je pense que ça sera vraiment autour de 2000 $, peu importe où l'on fini la course, quelque chose d'assez intéressant finalement. Bob Lucas qui nous disait que les 4-5 ans à venir devraient être une des meilleures périodes finalement pour construire justement un patrimoine financier et sans plus d'explications, il dit en plus que derrière on pourrait avoir une dizaine d'années un peu plus difficiles, donc pour lui de 2030 à 2040. La question c'est est-ce qu'on ne pourrait pas d'ores et déjà y être de 2025 à 2035 justement dans ces 10 années un peu plus difficiles. Je pense qu'il a raison sur sur le simple fait qu'aujourd'hui, on a l'IA qui est en train vraiment d'attirer beaucoup de flux et que c'est encore un peu trop tôt peut-être pour faire exploser cette bulle. Alors il y aura des reculs, comme je vous disais, je pense que 2026 s'y prêtera très bien, et notamment autour des midterms de Trump en novembre 2026, je pense que l'automne 2026 sera beaucoup plus chahuté que ce qu'on a connu en 2025. Mais là aujourd'hui, c'est vrai que bah, si on se projette sur les 4-5 prochaines années, est-ce que fondamentalement on a un signe noir qui peut nous sortir comme ça un peu du chapeau vis-à-vis des marchés? La réponse est oui, puisque par nature c'est imprédictible. Mais d'un autre côté, ben, on a finalement un gros moteur économique, on a une croissance qui est loin d'être négligeable par rapport à ce qu'on s'est traversé jusqu'ici. Donc c'est plutôt l'aspect de la dette, que ça soit pour les États-Unis ou mondial, qui va être un problème ou un frein, et également peut-être des conflits qui vont s'ouvrir ou s'intensifier à diverses zones du globe. Mais ça, c'est pareil, c'est assez difficile de le prédire, hein, tout simplement. Je reviens pas sur le RSI également au niveau du Bitcoin, qui était au plus bas par rapport à ce qu'on avait vu précédemment, notamment au moment des tarifs de Trump quand on était à 74. Donc ça fait beaucoup de signaux techniques finalement qui nous disent que bah oui, octobre pourrait plutôt pas mal se passer. Il y en a qu'un, et je vais entamer l'analyse technique juste après autour de ça, qui me fait un peu peur, c'est le MACD qui est en train de croiser bear en hebdo, mais c'est un des seuls aujourd'hui qui a l'air véritablement de donner un signal de cloche contraire. On avait Kraken qui boucle une levée de fonds de 500 millions de dollars à une valo de 15 milliards. L'échange prévoit d'utiliser ses capitaux pour son expansion et son projet d'introduction en bourse en 2026. Air Liquide, une des plus grandes et plus belles entreprises françaises et préférée des boursicoteurs dans les PEA de n'importe quel Français la plupart du temps, qui remporte un contrat important en Espagne. Objectif, prendre en charge à domicile 70 000 patients souffrant de pathologies respiratoires. Google qui prend des participations à hauteur de 5,4% dans la société de mining Cipher Mining avec un deal à 3 milliards. Donc on va voir là aussi ce que ça donnera. Mais peut-être enfin un réveil du côté des minières. Ça a été assez difficile hein, ces dernières années de naviguer aussi sur ces sociétés. Il y a 72 heures, le dollar index qui avait pas mal rebondi. Bon, c'était assez léger, mais ça laisse quand même un signal avant-coureur de ce qui pourrait se passer en 2026. Peut-être ce fameux rebond du dollar. Et en simultané, on avait eu également le taux à 10 ans qui est revenu coller autour des 4,20. Donc on voit que malgré tout, hein, les taux, c'est pareil, ça veut toujours rien lâcher. Et tant qu'il y aura des taux longs comme ça qui sont relativement hauts et des taux directeurs qui n'ont pas été baissés par la Fed de manière drastique, importante, et là pour l'instant, bah, ils ne savent pas trop jusqu'où ils veulent aller pour cette fin d'année 2025, on aura le consommateur américain qui vit énormément à crédit, qui malheureusement, au bout d'un moment, va trouver, si ce n'est déjà le cas, ses propres limites. On avait Sveibull qui met en avant une statistique assez intéressante, que l'or sur une vingtaine d'années a réalisé pile poil la même performance que le S&P 500 dividende réinvesti. Donc on est sur 700%, que ce soit pour le gold ou le S&P. Donc on voit qu'il y a des moments, et notamment lors de la crise financière des subprimes, où on a eu une décorrélation importante. On a eu aussi là, à partir de 2020, une poussée du S&P qui était beaucoup plus rapide. Mais le gold, finalement, peu importe comment on regarde, il y a beaucoup de détracteurs, comme pour l'immobilier d'ailleurs, hein, mais des métaux précieux pour dire « ouais, ça fait jamais rien, c'est pas un performer, etc. » Ben voilà, sur une vingtaine d'années, c'est une statistique factuelle, hein, je veux dire, on a 700% pour le gold qui colle parfaitement à 20 années du S&P 500, même en prenant en considération les 5 dernières années qui ont été folles, le tout avec les dividendes réinvestis. Donc définitivement, le métal précieux premier du nom, le fameux or, le gold, n'est pas à mettre tout de suite au placard. Et on clôturera avec Tether qui pourrait être valorisé à 500 milliards de dollars et qui placerait cette société au coude à coude avec le market cap d'Ether. C'est complètement fou. Et quand on regarde au classement des banques mondiales, eh bien, ça le placerait au second rang derrière JP Morgan Chase qui aujourd'hui pèse 860 milliards. En deuxième, on a Bank of America 380, ICBC 340, etc. Et à la 7e et 8e place, on a Morgan Stanley, Goldman Sachs autour de 250 milliards chacun. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une machine qui est bien rodée, qui génère énormément d'argent, qui achète des bons au trésor américain, donc je pense qu'ils ne vont plus les embêter tant que ça. Et voilà, je suppose que c'est en train de donner pas mal d'idées aussi, à la fois pour l'aspect stablecoin pur et dur, mais de business à l'administration de Trump, voire à la famille pure et dure, puisqu'ils sont quand même dans tous les petits papiers de tout ce qui pourrait leur rapporter aussi un peu de fric. On a le crypto total à 3800 milliards, donc toujours entre ces deux bornes, celle du bas avec la moyenne mobile 20 qui pour l'instant apporte un support dynamique à 3630, RSI qui est quand même pas mal dégradé mais qui finalement longe un peu la ligne ici, j'ai envie de dire, et c'est surtout le RSI en hebdo qui nous fait le premier histogramme négatif qui va croiser relativement haut. Donc là aussi, bon, je croise les doigts comme vous tous pour qu'on ait un automne agréable, mais c'est pas pour ainsi dire que c'est immédiatement gagné. Il faudra bien entendu reprendre les 4000 milliards, revoir un Bitcoin à son ATH, revoir les altes qui ont envie. Ça fait quand même beaucoup d'énergie à aller chercher, mais pourquoi pas, puisque récemment on a quand même purgé pas mal en journalier et que, comme on le voit, ben, petit à petit, on a malgré tout des flux et des capitaux qui cherchent à continuer à se propager, à être investis. Alors nous, on représente le risque suprême, les cryptos en bout de ligne, et c'est pas forcément ce sur quoi viennent se déverser la plupart des capitaux. On l'a vu, hein, on a une recherche de sécurité aussi quand il s'agit de l'obligataire, et une recherche de risque qui est d'ores et déjà là et qui offre de très beaux rendements au niveau des actions américaines, voire désormais des actions chinoises, des marchés émergents et de tout ce qui s'ensuit. Mais il y aura un moment où, tôt ou tard, bien entendu, le risque va revenir, et un peu plus de risque, un peu plus de liquidité, eh bien, c'est le Russell qui pourra percer, c'est les altcoins qui pourront percer. Pour l'instant, ça n'y est pas parvenu. À 1730, on n'a pas réussi à transformer l'essai du côté des alts. Pareil, le momentum MACD a fléchi. RSI également, on a la moyenne mobile 20 aujourd'hui à 1400 milliards. Et pareillement pour le crypto total 3, donc je ne vous refais pas la musique. On est autour de 1000,8 milliards aujourd'hui. Donc les plus optimistes d'entre vous y verront une très très grande de ta séance comme ça. Elle n'est pas très réglementaire et comme je vous disais, quand on regarde sur des échelles de temps aussi grandes, c'est quand même difficile. Mais bon, d'un point de vue technique et chartiste, ça fait plusieurs fois qu'on vient de travailler cette zone des 1000-1100 milliards. Donc le jour où vraiment on va avoir un peu plus de flux qui rentre sur le marché crypto, je suppose que ça pourrait se positionner un petit peu mieux. Également, le second finalement indicateur qui est plutôt pessimiste pour le court terme, contrairement à ce que je viens de vous dire depuis tout à l'heure, c'est la dominance des stablecoins qui revient coller à ce point pivot contre le crypto total à 0,07 et qui pourrait se mettre à accélérer, ce qui voudrait dire que dans un premier temps, on a des prises de profit plutôt qu'une dépense des stablecoins, et c'est là où j'aurais besoin de la confirmation ou non de l'analyse on-chain pour vérifier si les stablecoins sont dépensés actuellement ou pas. Le Bitcoin, donc, il surfe littéralement depuis un mois sur sa moyenne mobile 20 qui se trouve autour de 112 000 aujourd'hui et qui a défendu en clôture le support des 110-112. Le RSI est plutôt pas si mal orienté, on navigue en zone médiane, le MACD a croisé depuis un bon mois et on voit que finalement ça n'a pas produit un mouvement des enfers. On a un bas de canal également autour de 107-108. Donc aujourd'hui, toute cette zone est une zone de jeu légitime, on va dire. Tout ce qui se passerait par la suite sous la moyenne mobile 50, c'est-à-dire grossièrement sous les 100 000 $, deviendrait assez problématique et préoccupant quant au devenir justement de la fin de ce cycle. En traduction un peu plus, on va dire, compréhensible, ça voudrait dire que c'est notre zone de démarcation probable d'une rentrée prématurée en bear market si l'on venait à repasser en hebdo sous les fameux 100 000. La dominance du Bitcoin s'est faite légèrement repousser depuis les 59, on est à 58,5, mais pareil, on est plutôt sur des oscillateurs qui nous disent que cette chose veut rebondir. Ether est venu mécher comme d'habitude très profondément, 3820, on se raccroche aux branches, on clôture à 4100, le RSI a été défendu, mais le MACD a vraiment pas bonne mine, donc pareil, on va plutôt se dire que l'ensemble des indices et des indicateurs plaident pour un automne positif, tout en ayant dans un coin de sa tête que oui, potentiellement, ça peut ne pas se passer comme on l'espère. Donc c'est plutôt ça qu'il faut garder toujours comme finalement un peu un fusible et de ne pas partir dans tous les sens. En attendant, il y en a un qui part comme une balle de nouveau, c'est le silver, donc le métal précieux argent, 47 $ l'once, donc les 50 sont droit devant, et le gold en effet 3800. C'est complètement fou puisque même 2-3 mois en arrière, de se dire qu'ici en mai 2025, on était à 3100, il y avait de nouveau une performance sympa à venir chercher finalement, à rentrer sur ce qui nous paraissait être le top du gold, 21-22%. Donc vraiment en ce moment, les marchés sont fous hein, pour le coup, c'est le cas de le dire, on a un bull run séculaire du côté du gold. Une fois que ça se posera, pour du long terme, bien entendu, avoir selon votre appétence du risque 5%, 10%, 15% d'un patrimoine en or, comme on peut l'avoir aussi en Bitcoin, ça peut être intéressant, mais comme je le disais, voilà, ça va dépendre très fortement de votre âge, de votre situation financière, pourquoi pas de votre situation géographique. Est-ce que vous êtes à l'aise avec le fait d'avoir du gold et notamment peut-être physique, ou est-ce que vous préférez tout simplement avoir du Bitcoin qui, malgré tout, au vu de la performance du gold là depuis environ un an, on a break en mars 2024, donc même un an et demi désormais, très certainement que dans les prochaines années, on aura mieux à venir chercher en effet du côté du Bitcoin que de l'or. Mais lorsque le Bitcoin topera, pas dans ce cycle, mais dans le cycle d'après, très certainement que ça sera le moment notamment de refaire une rotation vers des actifs durs. Et si on se projette sur ce que disait Bob Lucas de 10 années qui seront un peu plus difficiles à compter de 2030, ça peut faire sens en effet de venir bétonner tout simplement un portefeuille long terme en ayant un socle solide. D'autres préféreront aussi peut-être l'immobilier, enfin voilà. Personnellement, je ne suis pas contre aucun actif, je suis ouvert à tout actif du moment que ça s'inscrit justement dans une logique comme ça qui est à la fois réfléchie, à la fois diversifiée et qui vous permet de vous projeter sereinement tout simplement. Au niveau des futurs, on est plutôt dans le vert pour les États-Unis qui devraient rouvrir positif. Donc là aussi, c'est plutôt cool, mais tout monte. Donc au bout d'un moment, c'est un petit peu bizarre, sauf les cryptos qui sont un peu en retard par rapport à leurs propres ATH et notamment Bitcoin. On se demande pourquoi ils ne poussent pas en simultané de tout le reste. Et comme je vous disais dans la dernière émission, c'est le trou noir à la fois de l'or, à la fois des actions qui continuent d'être sexy, à la fois des obligations pour les portefeuilles de bons pères de famille et à la fois tout ce domaine de l'IA et des techs américaines qui vraiment font le trou noir, mais pas que, puisque en même temps que je réfléchis comme ça en parlant, il y a également les buybacks au niveau des États-Unis. Les sociétés américaines dépensent énormément, notamment les 7 magnifiques, pour racheter leurs propres actions. Donc ça, c'est aussi quelque chose à surveiller. À partir du moment où on aura moins de dépenses comme ça un jour et que eux-mêmes vont pressentir le ralentissement économique, et on a les résultats, les datas qui paraissent d'un trimestre sur l'autre, ça aussi, ça sera peut-être le signal avant-coureur que voilà, l'économie commence à se gripper, mais jusqu'aux plus hautes strates et aux plus hautes sphères de ce qui tient aujourd'hui justement l'économie et la tech américaine. Les taux baissent légèrement. Ce lundi, on est à 4,15 pour le 10 ans, 4,70 pour le 20 ans et 4,73 pour le 30 ans. On a l'EDXY qui donc est en train d'essayer de se stabiliser dans une box comprise entre 96 et, si on ne prend pas la mèche extrême, autour de 99. Et le point pivot est beaucoup, beaucoup plus haut. C'est la médiane de range autour de 103. Donc, est-ce que cette année 2026 va être placée en effet sous l'égide d'un dollar fort, ou est-ce qu'on a le dollar qui continue de faire le range? Chose qui finalement ne serait pas désagréable, qu'on n'ait pas ni un dollar fort ni un dollar complètement affaibli, puisqu'aujourd'hui, autour de 100 points, quand bien même on nous dit oui, ça y est, c'est la fin du dollar, quand on regarde depuis 2015, eh bien, si vraiment on prend la moyenne de tout ça, on est plutôt en règle générale en train de tricoter autour de cette zone des 95 à 100 points pour le DXY. Donc on est plutôt revenu à une certaine neutralité finalement par rapport au dollar. Le recel qui est en train de nous faire exactement pour, comme nos bons vieux altcoins, donc de bloquer sur la zone de pivot des 2450-60. Donc ça, le jour où ça passe, très certainement que soit un petit peu en décalage, soit en simultané, on aura une accélération des alts. Là, pour l'instant, ça n'a pas l'air de vouloir passer immédiatement. Et ce qu'il faudra surveiller donc pour le long terme, bien entendu, c'est également le VIX, l'indice de la peur et de la volatilité. Le jour où vous aurez un énorme pic, comme on l'a eu le 5 août 2024, Yen Carry Trade, ou comme on l'a eu ici, 7 avril 2025, tarif de Trump, vous savez que vous pouvez rentrer très fort en général multimarché et que ça vous offre des rendements à 6 mois, à 1 an qui sont des plus importants, tout en prenant un minimum de risque au vu justement de la peur qui s'empare à ces moments précis des marchés et qui vous offre des fenêtres de tir qui, même si vous ne rentrez pas au point bas ultime, très certainement vous offrira des rendements qui seront importants sur les 1, 2, 3 années qui s'en suivront. Je vous souhaite une excellente journée. Pour ma part, je retrouve très certainement que mercredi. Continuez d'ouvrir l'œil, peut-être un fameux October avec, on l'espère, octobre qui délivrera ses lettres de noblesse comme il l'a fait jusqu'à présent. Très bon lundi et à plus tard. Ciao, ciao.